paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Bonjour à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Yerushalayim, Jérusalem, capitale éternelle, indivisible de l'État d'Israël. Bienvenue à notre émission, la paracha nous parle. Nous espérons que vous portez bien. Rav, il invite aussi au micro. Et cette semaine, dans toutes les synagogues, nous lirons ce Shabbat, la paracha de Vayetse. Un thème va m'inspirer pour cette semaine, le mariage. C'est cette notion si importante qu'on a pu voir déjà dans la paracha de Chaye Sara il y a deux semaines, lorsque Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour faire le premier mariage de l'histoire avec Yitzhak et Rivka. Mais là, nous sommes confrontés à Yaakov qui veut épouser Rachel et il va avoir d'abord des enfants avec Léa, puis les servantes Zilpa et Bila. Et ce n'est qu'à la fin qu'il aura le mérite de pouvoir avoir deux enfants avec Rachel. Et je pense que c'est un moyen que nous avons pour comprendre qu'est-ce que le mariage nous attend. Alors, pour reprendre une chanson très populaire, mais de la mettre au goût de notre émission et de la station de Torah Box Radio, le mariage, mon Dieu, quelle bénédiction. C'est la phrase et le leitmotiv de cette émission cette semaine. Je vous rappelle que nous avons un mail auquel vous pouvez réagir, nous écrire. radio@torah-box.com et nous en rendez-vous dans quelques instants après une page de publicité. A tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.
Paracha nous parle. Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission. La paracha nous parle. Et donc nous avons décidé à travers cette paracha de Vayetse de développer le thème du mariage. Le mariage, mon Dieu, quelle bénédiction, car c'est vrai. La Torah nous le rapporte, en tout cas la Gemara, pour être plus précis, dans Maseret Kiddushin, page 29, Amud Bet, folio B, que le père doit marier son fils. Et Hachem, le maître tout-puissant, attend qu'un jeune homme épouse une femme, et une fois arrivé à un âge qu'il est recommandé, 18, 20 ans, 22, 23, et qu'il reste célibataire, Hachem déclare: il a oublié le principal dans la vie. Et il y a encore, puisqu'il a dépassé cet âge-là et qu'il n'est toujours pas marié, alors il pourrait, de façon automatique, avoir des pensées impures. Et c'est le père qui a ce devoir incontournable. Et si le père ne fait pas attention à cette obligation, qui sont au nombre de cinq, Alors il cause un mal très grand par rapport à son fils. Dans une telle situation, le fils est dispensé d'honorer son père. Il doit être hard comme le léopard pour demander honorablement le repos et la fin de ses transgressions par le biais d'une tierce personne. À plus forte raison, lorsque le fils est indépendant, il doit se dépêcher de se marier et il n'entretiendra pas d'illusion à ce propos. S'il est pauvre et qu'il n'a pas les moyens d'entretenir une femme et des enfants, cela repousse tous les partis éventuels. Néanmoins, il fera ce qu'il pourra. Il cherchera une jeune fille aussi pauvre que lui et même sans dot. Il mettra sa confiance en Dieu qui le récompensera et dont il recevra les bénédictions. Et même si elle est laide, la grâce est un mensonge et la beauté est une vanité, disait Shlomo Ameller dans le fameux Chétraï que nous récitons, chers amis masculins, tous les vendredis soirs à nos épouses respectives, avant le Kiddush, dans le fameux Eshet Chayil. La Mitzvah, le commandement divin qui diffuse sa lumière, les aidera à engendrer des enfants valeureux. Et s'il ne la trouve pas en son lieu, il ira de ville en ville, d'un pays à l'autre. Il ne s'embarrassera pas d'aucune honte, car la femme, c'est un fondement contre la faute et garde l'ordre de la Kiddusha, de la sainteté. Quant au mariage des filles, nos maîtres rapportent dans le traité Pesachim que le père doit libérer son esclave pour le marier à sa fille. Heureux l'homme qui écoute les paroles de nos sages, mais l'homme ne fera pas ce qu'il veut, car il ne peut donner sa fille à un homme insensé. Il ne recherchera pas non plus un homme possédant des biens, car s'il trouve un homme pauvre, humble et qui marche intégralement dans le droit chemin, il dotera sa fille et puisse la bénédiction divine l'enrichir. C'est ce que rapportera un autre texte du Talmud, que l'homme doit vendre tout ce qu'il possède afin de marier sa fille à un étudiant de Torah. Quand même, et comme c'est marqué dans un autre texte encore du Talmud, que celui qui marie une femme examinera ses frères. Car la plupart des enfants ressemblent aux oncles maternels, cela garantit que les fils deviendront des érudits dans la Torah. Celui qui voit clair et reconnaît le bien de la Torah, qui amène de loin sa subsistance, il accroît l'honneur de sa maison, il lui offre une postérité et une bonne espérance. Il vivra paisiblement, car il est certain que l'étudiant de la Torah accomplit les paroles de nos sages qui nous recommandent d'honorer nos femmes. Et donc l'homme l'aimera comme lui-même. Il l'honorera plus que lui-même. Il sera indulgent envers ses fautes pour préserver la paix conjugale et il ne s'emportera pas dans sa maison. L'érudit de Torah. Il possède de nombreuses vertus et il partage tout. Il en résulte que sa portion est bonne dans ce monde et agréable dans le monde futur. Le cas est tout autre lorsque le père donne sa fille à un ignorant, même lorsqu'il est riche. Car il arrive qu'il perd son argent et qu'il se retrouve tel qu'il est, avec ses tares, ses instincts bestiaux et ses malédictions. La vie de cette femme deviendra alors amère et sa fin ne sera encore davantage. L'homme intelligent voit de ses yeux et comprend avec son cœur qu'il ne doit pas convoiter l'argent. Il choisira plutôt des hommes sages qui craignent le maître du monde, même sans ressources, car comme dit le roi Salomon, mieux vaut du pain sec mangé en paix qu'une maison pleine de festins accompagnée de disputes. Et il dit aussi, descends d'un rang et prends une femme. Et celui qui écoute les conseils de nos sages, il résidera en paix. Et l'écoute de ce principe-là protégera le couple dans sa réussite. Il est vrai qu'Hachem rassemble les couples. Et 40 jours avant la formation du fœtus, une voix céleste annonce que la fille d'un tel est promise à un tel. Quoi qu'il en soit, il existe trois sortes de décrets. Le premier décide du bien et de l'absence de mal pour le nouveau-né. Il jouira alors du bien, même contre son gré. Le deuxième est un mauvais décret dont il ne pourra se sauver. Et le troisième fait dépendre son avenir de ses efforts et de ses requêtes. Chacun devra donc craindre qu'il fait partie du troisième groupe. Il devra faire le maximum et vendre tout ce qu'il possède pour acquérir une bonne portion dans son patrimoine. Car c'est notre devoir, comme dit le fameux Shir HaShirim, ce fameux cantique des cantiques qui relate l'amour d'un couple, celui de Dieu, le Khatan, avec le Am Israël, qui est la Kala, où il dit « Car... » Et kol hon beto baava. quand un homme donnerait toute sa fortune pour acheter l'amour. Dans le même d'ordre d'idées, si on fait le vœu de donner une dot importante et qu'on s'appauvrit ou se rétracte, ce ne doit pas être une raison pour retarder le mariage ou pour décider leur séparation. On devra croire en Hachem qui donne généreusement à chacun selon ses mérites. Car il est préférable de gagner une heure sans faute qui est comme une épée tranchante au-dessus de la tête plutôt que d'amasser une fortune. Et c'est ce que dit les paroles du Zohar, d'après le Zohar, qui dit que les fautes piègent parfois un mécréant qui épouse une femme qui ne lui convient pas, qui ne lui a pas été promise, et quand vient l'heure de rendre l'objet perdu à son propriétaire, on quitte ce monde avant terme en repoussant une âme devant l'autre. Parfois, le décret est tel que le mariage avec une honnête femme dépend des prières et des efforts. On sait que l'intégrité d'un homme de son service par rapport à Hachem dépend pour une grande part des conseils de sa femme. S'il le mérite, elle l'aide. Sinon, elle le contrarie. Il convient donc de prier avant le mal et les jeunes hommes, comme les jeunes filles, qui craignent le Tout-Puissant, devront prier en ce sens. De même, le père devra répandre son âme devant Hachem afin que le mariage de ses enfants réussisse. Et avec l'aide d'Hachem, alors, vous verrez que tous les tefillot que les Chachamim à travers la génération ont composés marcheront. On sait que la relation conjugale est un commandement de la Torah. C'est marqué dans la paracha de Mishpatim. Ve'onata lo igra. Il ne devra pas la frustrer du droit conjugal. L'homme devra donc être animé de cette intention en agissant selon les lois de la Torah. Et il devra revoir ces lois de temps en temps. Comme ce bonheur d'avoir une relation conjugale le Shabbat au milieu de la nuit. Toutefois, tout dépend de la nature de l'homme et du désir de sa femme. Il est dit à ce propos qu'il aura le mérite d'engendrer des fils se distinguant par leur savoir. Néanmoins, l'homme ne devra pas inciter son mauvais penchant ni donner sa force aux femmes. Il se souviendra de ce qu'a écrit le Rambam dans Ilchot Deot, les lois de la connaissance, au chapitre 4. 99 hommes meurent d'excès de relations intimes et un seul de mort naturelle. Et comme la femme a été créée pour procréer et que la perfection de l'enfant, ses vertus et ses opinions dépendent du moment de la relation et de son intention, l'homme devra ceindre ses forces et sa vigueur pour accomplir la mitzvah à son heure. Et le couple devra s'efforcer de n'avoir que des pensées pures et claires, de peur que leur relation ne devienne libidineuse. Et dans ce cas, ils endommagent l'âme et engendrent des enfants chadéchalom mauvais, fauteurs, idiots, rebelles, malfaisants, qui possèdent toutes les tares possibles. L'homme peut-il se plaindre d'avoir une mauvaise conduite chez lui alors qu'il en est la cause? C'est une calamité, une cruauté pire que le massacre des enfants. Et si les enfants savaient que leur père est responsable, ils lui crieraient leur indignation. Pourquoi nous as-tu corrompus dès notre conception? Ils devront supporter la faute de leurs parents impurs. Et les enfants n'en seront pas tellement coupables, car leur fondement est branlant. Que peuvent-ils faire sinon fauter? Une mauvaise âme engendre le mal, et beaucoup de travail et d'efforts seront alors nécessaires pour transformer leur mauvaise nature et leur tempérament difficile. Il n'en va pas de même pour les personnes avec une kedusha minimum, qui accomplissent les mitzvot selon la Torah dans la pureté. Ils mangent leur usufruit dans ce monde en se réjouissant de leurs descendants, qui deviendront des sages, des gens de savoir, parfaits dans leurs vertus et leurs opinions, remplis de connaissances et de crainte d'Hachem. Aucune joie n'est plus grande, chers amis, que la jouissance de leur âme dans le monde futur. Que pouvons-nous dire quand nous sommes impuissants à décrire le mal de l'homme qui ne se sanctifie pas au moment de la relation conjugale? Un grand bien est réservé à l'homme et à la femme qui prennent garde que leurs descendants soient saintes, soient bénis, afin qu'ils aient une postérité de valeur. Chaque homme fera attention à ce qui a été dit et avertira sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'écoutent, quitte à élever la voix comme le son du chauffard devant les armées. Et c'est pour uniquement le kavod Hachem, pour sanctifier cette mitzvah, que l'homme ne devra éprouver aucune honte de parler des choses intimes qui ne regardent que l'homme et sa femme. Il devra crier comme une grue, « Ayez pitié d'Hachem, de vous-même, de votre âme et de celle de votre progéniture. Prenez garde à vous sanctifier lors des relations conjugales de toutes vos forces et avec courage. » Et c'est ce que dira Kohelet. « Ve'achayiten el libo » Que les vivants doivent le prendre à cœur. Hachem, qui est entouré de Kedoshim, il attend le moment où une goutte de semence donnera naissance à un tzaddik. Comme c'est marqué à travers la paracha de Balak, « Au mispar et rova Israël ». Qui peut dénombrer la multitude d'Israël ? Et la Gemara de rapporter, qui pourra dire que sa progéniture est sainte ? Il devra prier à voix haute afin que sa femme l'entende et prenne la chose à cœur. On sait qu'il faille se laver les mains si on a dormi avant la relation. Et après l'essuyage des mains, alors on récitera cette prière que, au nom de l'union d'Hachem et de la Shekhina, grâce à Dieu, j'ai la possibilité de parler à Hachem et je déclare qu'il convient de penser au verset du Shema Israël avec toutes ses intentions, car on arrive à cette phrase de Ve'ahavta. Et donc, on mentionnera à sa femme, avant la relation, les signes que Yaakov a donnés à Rachel dans cette paracha de Vayetse. En saisissant son orteil droit, son pouce droit, le lobe de son oreille droite, et ensuite il s'approchera de sa femme avec sainteté et beaucoup de pudeur. Et selon les halachot qui sont clairement défini lorsque nous apprêtons à nous marier, que si on ne l'a pas fait, il est toujours le temps de le faire. Et après la relation, on fera encore une nouvelle ablution des mains et on jettera de l'eau propre autour du lit. Voilà la bonne manière d'acquérir une semence pure et abondante. Une bonne méthode pour garder des pures pensées consiste à conserver sa lucidité à ce moment-là. Car si on somnole, on ne maîtrise pas son cœur et on tend à avoir des pensées étrangères comme dans un rêve. Et c'est ce qui est marqué dans Michel de Shlomo Ameler. Gam belodat nefesh lotov. Être dépourvu d'un esprit réfléchi, c'est un mal. Et donc, on doit faire attention à accomplir les misotes. Et celle-là, entre autres, et il préfère d'avoir cette relation conjugale au début de la nuit, au moment où on n'a pas à avoir cette intention-là. Car grande est la faute lorsqu'elle a accompli pour une noble cause. Et il est marqué dans tous les livres de Chachamim que l'essentiel de l'amélioration du fœtus dépend de l'intention de la femme. De sorte que si l'homme seul fait attention, alors le sadique ne peut rien accomplir. Par conséquent, il devra avertir sa femme et lui rappeler de garder une pensée pure le jour avant la relation. L'homme et la femme vérifieront aussi de ne pas éprouver le besoin de se soulager à ce moment-là, car cela pourrait causer l'incontinence chez les enfants. Ils s'assureront aussi que leur ventre ne soit rempli d'un excès de nourriture, créant chez l'enfant l'idiotie, la stupidité, la lourdeur, la fainéantise. Ce sont là quelques traits d'une conduite juste et droite. Pour mériter une progéniture de Sadikim, il faut se garder des 9 vices énumérés par les sages que peut-être un jour nous parlerons. On doit déduire que par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'il faut faire une première pause musicale dans notre émission, que l'homme ne doit pas épouser une veuve, car la femme ne s'allie qu'avec celui qui a fait d'elle un réceptacle. Il est vraisemblable qu'elle ne cesse de penser à son premier mari et il en s'ensuit un ménage à 3. À plus forte raison, si le second mari est plus dur que le premier, elle n'oubliera pas l'époux de sa jeunesse et méprisera le second dans son cœur. C'est ce que dira le Zohar Kadosh. Celui qui épouse une veuve s'expose à un grand danger comme s'il nageait dans l'océan. C'est pourquoi l'homme qui craint Dieu n'épousera ni une veuve ni une divorcée, mais une jeune vierge, à moins qu'il ne soit âgé ou qu'il ne trouve pas une jeune vierge. Et dans ce cas, il ne doit pas renoncer à la mitzvah de procréer, mais épousera celle qu'il trouve. Voilà ce que je voulais, dans un premier temps, nous donner comme base pour continuer dans un instant la suite de notre cours. À tout de suite. Bonne détente musicale.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. גשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. שמציק לצור ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
Alors bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez La Paracha nous parle. Chaque semaine, nous vous proposons un éclairage sur la Paracha. Cette semaine, nous lisons la Paracha Vayetse et nous avons, depuis le début de l'émission, déclenché cette notion de mariage. Mon Dieu, quelle bénédiction, car c'est tout le but de la création que Hachem a orchestré. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, faire de vos remarques, poser des questions, et nous essaierons de répondre ou bien d'apporter quelques précisions et éclaircissements s'il y a des choses qui vous ont interpellé lors de nos précédentes émissions, ou bien même de celle-là. L'adresse est la suivante, radio@torah.box.com. Quand Hachem a créé le monde, il l'a fait selon un procédé commun à tous les éléments. En effet, il a nommé la chose et celle-ci apparaissait instantanément. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Baruch She'amar Ve'aya Ha'olam. Béni soit celui qui a parlé et le monde fut. Yomer Hachem Yehi Or Vayehi Or. Que la lumière soit, la lumière fut. Sauf pour l'homme, qui a été créé en trois étapes. Comme tous les autres êtres, il a été façonné à partir de la poussière de la terre. Puis Hachem a gratifié l'homme d'une nefesh chaya, une âme vivante. Puis enfin, il lui a dit « Lotov heyot adam levado et c'est lo aezer kenigdo ». Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je lui ferai une aide en face de lui. Pourquoi l'homme a été créé de façon progressive et non pas comme le reste de la création? Alors analysons chaque étape. Hachem a pris donc de la poussière de la terre pour créer l'homme. Qu'est-ce donc? L'homme, il a été créé de façon graduelle. Le Maharal de Prague, il répond que Afar, la poussière, et Adama, la terre, sont des mots différents. Dans le mot Afar, la poussière, le sable, même si on sème des graines, rien n'y pousse. Alors que la terre, Adama, elle est productive. Les animaux viennent de Haaretz, c'est-à-dire de la poussière. La preuve, c'est qu'ils n'évoluent pas. Ils restent comme ils sont nés. Behema, c'est B dans Emma en eux. L'homme vient de Adama, la terre. Donc, il peut s'élever à tous les instants de sa vie. Il peut grandir. C'est pourquoi l'homme a été créé selon une évolution, afin qu'il comprenne que le but de sa vie est de s'élever chaque jour. L'homme est différent des autres êtres vivants, de ce point de vue. De plus, l'homme se singularise par la parole. Quelle différence avec les animaux, demande Rashi? C'est la deuxième étape, c'est Nefesh Chaya. Mais les animaux n'ont pas la parole, ils n'ont pas le da'at, l'intellect. Et la parole permet à l'homme d'évoluer, ce qui n'est pas le cas donc pour les animaux. Et les Chachamim posent la question, quel est le métier de l'homme dans ce monde? Être muet? Si Hachem a voulu que nous soyons muets, pourquoi alors nous avons donné la parole? Et de plus, un métier est actif. Se taire est un comportement passif. Et les sages expliquent qu'en réalité, il faut parler, mais seulement si l'on sait comment parler. Ou plus précisément, avant de parler, se demander à qui l'on parle, combien et quand parler, sur quel ton. La parole transforme un acte anodin en une relation d'estime. C'est ce que dira Shlomo HaMeler. « Chayim ve'amavet beyad alashon » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il s'agit donc de savoir comment parler. Et le Hafez Chaim, qui a écrit le fameux Shmirat HaLashon, ce code de loi pour savoir comment parler, disait que sur lui-même qu'il parlait toute la journée. Il était vigilant. On peut utiliser de la langue pour donner la vie à celui qui est en face de nous ou pour Hadesham lui donner la mort. L'homme, c'est le seul dans l'espèce humaine à pouvoir construire un modèle familial dans le monde. Je ne me marie pas pour recevoir, je me marie pour faire exister ma femme et mes enfants. Le Sforno, un des grands commentateurs, explique dans le Chumash que Moshe a été appelé Moshe pour rendre hommage à Bithya, la fille de Pharaon, qui au péril de sa vie l'a sauvé des eaux, qui mena maimishitihu contre la volonté meurtrière de son père. En effet, le pharaon, lorsque elle est rentrée au palais avec l'enfant derrière son dos, a demandé à le tuer. Et les astrologues du roi l'avaient vu comme le libérateur des Hébreux. Ce à quoi elle a répondu que s'il voulait appliquer ses plans, il devrait au préalable tuer sa propre fille. Alors que Moshe avait de nombreux autres noms, c'est pourtant celui que la fille de Pharaon lui a donné qui a été retenu par la Torah. Et le Sforno relève que le nom qui a été donné à Moshe, c'est Mashoui, c'est retiré, c'est une forme passive, car Moshe signifie qui retire, forme active. Et Bithya, elle a voulu donner ce nom à Moshe comme un héritage pour perpétuer les bontés dont il a été le bénéficiaire, et non comme une commémoration. C'est-à-dire que Moshe avait en lui le potentiel d'être le sauveur des enfants d'Israël en Égypte. Les parents nous ont tout donné, nous ont éduqués, nous ont fait grandir. Si l'on se mariait pour donner et non pour recevoir, on aurait compris la phrase des sages qui dit que sans le mariage, il n'y a pas de joie. Le problème est que l'homme se marie pour que son épouse remplisse son cœur de toutes ses volontés. C'est alors que l'homme sent que la femme lui doit tout et que lui ne lui doit rien. Et c'est ça le gros problème de notre société. L'homme se trompe en croyant épouser une bonne à tout faire, une machine à travailler, une bête de somme. Et la femme, croyant épouser une machine à billets de banque, se trompe. Le résultat est que aussi bien l'homme que la femme souffrent lorsqu'ils voient leurs attentes insatisfaites. Ils éprouvent du mépris et de la déception. Un jour, un homme a donné des conseils dans un repas en l'honneur des mariés sur l'importance de la générosité dans le couple. Et le don procure deux bienfaits, disait-il. Procurer un bien à l'autre et s'élever soi-même par le biais de ce don. Il a dit qu'il faut faire du chesed, du bien, mais ne pas être crédule. La différence entre le généreux et le crédule, c'est la suivante. La générosité s'applique lorsque l'autre a besoin du bienfait. Alors que celui qui te demande des choses dont il n'a pas forcément besoin te donne l'impression d'être un pigeon. On risque donc de fabriquer un profiteur et un paresseux. Le but de la venue de l'homme dans ce monde est d'arriver à ce niveau. C'est-à-dire que le problème de conseiller de l'histoire est qu'il n'arrivait plus à grandir et à s'élever à ce haut niveau. C'est la raison pour laquelle il a méprisé ce comportement. Pour ne pas avoir mauvaise conscience, de ne pas avoir atteint. On pourrait résumer que si la femme remplit 40% de nos attentes, c'est une bonne femme. 60% c'est une grande femme. 80% relève du rêve et aucune femme ne peut y arriver. Il en est de même pour les hommes. Alors comment concilier ces deux éléments contradictoires ? Alors il y avait un des grands spécialistes du Shalom Bayit. Il donne la chose, un conseil qui est le suivant. Et à partir d'aujourd'hui, parallèlement à ta propre avancée spirituelle, montre à ta femme que la Torah te rend plus patiente, plus amoureuse, plus satisfaite, plus tolérante, plus agréable, plus noble. Alors, le conjoint ou la conjointe sera impressionné et aura envie de partager les valeurs qui t'ont rendu si grande et si admirable. Plusieurs années se sont écoulées et voici que un couple religieux a frappé à la porte. L'homme avec une barbe, un chapeau et une femme riant de joie. Et c'était le couple qui avait reçu ce conseil de ce spécialiste en Shalom Bayit. Et le rave ne s'est pas souvenu d'eux. Alors le rave a demandé à l'homme, « Comment en es-tu arrivé là ?» Il a répondu, « Je n'ai pas pu résister à sa grandeur d'âme et à sa noblesse. » Voilà comment on peut aider une personne à devenir meilleure. On doit adopter à son égard une attitude positive et exemplaire, en comprenant que l'on ne reçoit pas 100% de ses attentes, ce que nous n'avons pas réussi à rayonner aux yeux de son conjoint, pour lui donner envie de nous rejoindre. L'homme est le seul à éduquer ses enfants. À l'inverse des animaux qui n'éduquent pas du fait que leurs rejetons sont autonomes dès leur naissance. Pourquoi Hachem a causé ce préjudice à l'homme qu'il doit se sacrifier pour éduquer sa progéniture? C'est pas parce que les enfants naissent non éduqués que je dois les éduquer. Que Hachem a voulu me donner la misère d'éduquer qu'il m'a donné des enfants non éduqués. Ainsi, l'homme comprend que sa réalisation passe par le don de soi. Et c'est ça la clé du bonheur. Et en s'éduquant soi-même, on peut alors éduquer les autres. Les parents sont déçus parfois de voir un enfant qui est mal éduqué et qui ne réussit pas aussi brillamment que ses frères et sœurs. Mais au contraire, c'est avec cet enfant que les parents peuvent se réaliser au mieux, du fait qu'ils doivent encore plus lui donner, le considérer et l'aimer pour qu'il revienne sur le chemin de la vertu. Et c'est ça, cette notion de mariage. Nous avons vu il y a deux semaines, à la parasha de Chayei Sara, que le texte disait que la vie de Sara était de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pourquoi répéter le mot « autre », le mot « en » trois fois ? Le Midrash de nous enseigner qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans, sans péché. De même qu'elle était sans péché à 20 ans, puisque non responsable de ses actes aux yeux d'Hachem, de même elle l'était à 100 ans. Et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Alors, on pose la question, c'est quoi cette beauté de 20 ans comme à 7 ans ? Sarah Imenu avait la beauté à 20 ans d'une fillette de 7 ans, c'est-à-dire qu'elle ne se servait pas de ses atouts physiques pour attirer sur elle les regards. Elle était restée dans sa naïveté, sa discrétion, sa pudeur, pour éviter que les autres ne trébuchent par sa faute. C'est donc la beauté et la pureté d'une petite fille de 7 ans qu'elle avait gardée jusqu'à 20 ans, qui est pourtant un âge où le Yetzerara nous incite à nous mettre en avant pour attirer l'attention. Et pour preuve, Sarah était une telle pudeur qu'Abraham Avinu, qui travaillait pour préserver la sainteté de ses yeux, ne s'est aperçu de sa grande beauté qu'après plusieurs décennies de vie commune, lorsqu'il a perçu sa silhouette dans un étang en arrivant en Égypte. Et cette qualité propre au matriarche se retrouve chez Rivka. Il faut aussi se rappeler que lorsque Abraham a missionné Eliezer pour chercher une femme pour son fils Israël, il a fait jurer de ne pas ramener une fille de Canaan pourvue de mauvaises qualités. Eliezer arrive au puits et il dit, il reste une prière à Hachem, que la fille à qui je dirai, veux-je, est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle répondra, oui, je te donnerai à boire ainsi qu'à tes chameaux. Alors c'est elle que tu auras destinée à ton serviteur Yitzhak. Et le Rav Dessler, il rapporte que les midot sont très difficiles à changer. Aussi faut-il choisir dès le départ un conjoint avec des bonnes vertus. Alors pourquoi son choix est-il conditionné par cette démarche de Eliezer? Il a vu le miracle de l'eau qui se puisait d'elle-même et il demande de quoi se désaltérer pour lui-même. Il pense que la jeune fille, qui lui offrira de sa propre initiative d'abreuver aussi ses chameaux, prouvera sa bonté. Sa bienveillance à l'égard des animaux est une vertu particulièrement appréciée dans la Torah. Et le Or HaChaim, il met en lumière la pudeur et la bonté, les qualités indispensables de chaque fille du Ham Israël. En effet, Rivka n'a que 3 ans et elle excelle dans l'art du chesed. Et son dévouement se conjugue à une finesse d'esprit, une noblesse d'âme, qui la conduisent à aller au-delà de la bienséance. Et pour ne pas mettre Eliezer mal à l'aise, elle lui donne à boire à temps qu'il ait fini de boire, et après, elle finit de lui donner à boire, et aussi pour tes chameaux, je vais aller puiser. Elle agit comme si c'était elle qui décidait, quand elle cesserait de l'abreuver, pour qu'Eliezer n'ait pas le sentiment de profiter d'une situation. Elle mène le jeu en apparence, son comportement n'est en réalité dicté que par une observation délicate et intelligente de la situation, et c'est ce qu'on appelle la pudeur. Et tous ses efforts sont canalisés en l'honneur d'Hachem, et c'est pour ça qu'elle ressemble à la fois à Abraham pour le chesed et à Sarah pour la discrétion, et que ces notions-là vont se retrouver chez Yitzhak et Rivka, et qui vont aussi aller chez Yaakov, qui va développer ça à travers les 12 tribus. Nous continuerons dans un instant notre 3e et dernière partie de notre émission. Donc à tout de suite. Bonne page de publicité.
La Paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des vraies Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Paracha nous parle ? Écoutez ce que la Paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Voilà, nous rentrons pour notre troisième dernière partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à notre adresse mail qui est la suivante, radio@torah-box.com. Comme c'est notre dernière partie d'émission, il faut essayer de comprendre, après tous les enseignements que j'ai pu nous transmettre à travers nos chachamim, ben essayer de comprendre l'importance de se préparer au mariage. Car malheureusement, il faut être véridique, sincère, honnête. Se poser la question, pour quelle raison tant de couples Chas v'Shalom divorcent-ils ? Pour quelle raison les batedinim, les tribunaux rabbiniques, sont-ils pleins de couples de toutes les classes sociales en instance de divorce ? Pourquoi tant de couples qui ne sont pas divorcés, mais qui sont au seuil du divorce, ne se partent-ils plus ? D'où provient ce terrible malaise dans tous ces foyers ? Et la raison, c'est le manque de préparation au mariage. Chachamim disent que le mariage, c'est un très grand et saint sujet, et qu'il est regrettable qu'il soit laissé entre les mains de jeunes sans expérience. Il faut beaucoup de préparation pour arriver à fonder son foyer. Chaque couple désireux de se marier ne consacrera le temps et les forces nécessaires qu'aux préparations adéquates. Ils sont tellement préoccupés par l'appartement, les meubles, la robe, le smoking, ils sont tellement préoccupés par les détails qu'ils en oublient l'essentiel. La plupart des couples, presque tous, ne sont pas préparés au mariage et à partir de là commencent tous les ennuis. Je me permettrai même de dire que lorsque je suis invité à des mariages et qu'on me demande de prendre la parole, je me limite à une phrase. Le plus important, ce n'est pas de se marier, c'est de rester marié. La question que je me suis toujours posée, que je pose des fois à des khatanim qui viennent prendre cours chez moi. Est-ce qu'une personne aurait pris le risque de voyager dans un avion avec un pilote qui n'aurait pas suivi de formation ? Évidemment, tout le monde va me dire, et ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit non. Et croyez-moi, il est beaucoup plus difficile de mener à bien un foyer et une vie de famille que de piloter un avion. La preuve, c'est que les militaires qui apprennent à piloter après 2 ans de formation savent piloter un avion. On n'a pas entendu que 50% des avions s'écrasent, Chas v'Shalom. Par contre, 50% des foyers se disloquent, Chas v'Shalom. Preuve en est qu'il est plus simple de piloter un avion que de diriger un foyer. De toute façon, si pour piloter un avion, il faut investir 2 ans d'études intensives, pour votre raison, est-il nécessaire à un couple d'investir plusieurs années pour apprendre comment gérer une vie de famille ? Imaginons une femme mariée depuis 20 ans qui n'a jamais reçu un cadeau de la part de son mari. C'est des conseils qu'il ne faut jamais donner. Il faut quand même aller des fois dans les cas extrêmes qui existent pour prendre conscience et avoir des renseignements. Un jour soudain, son mari lui offre un joli pullover, mais avec une tache d'huile qu'il est impossible de retirer. Elle lui dira sans aucun doute, j'aurais préféré de rien recevoir de tout de ta part, retourne au magasin, leur rendre le pullover. Et le mari tente de l'apaiser. Peut-être que la tâche partira au lavage. Selon son épouse, n'a pas besoin du pullover que son mari lui a apporté. Elle a besoin d'un cadeau offert avec cœur. Une femme n'a pas besoin de cadeau de son mari, uniquement de son amour. Un homme peut construire à sa femme une magnifique villa de 4 étages et de 18 chambres. Et pourtant, elle ne sait plus comment se sauver de lui et de la villa. Elle ne s'est pas mariée pour la villa, mais avec lui. Elle attend de l'affection de sa part. On raconte dans le Gemara, traité Megillah, page 28, qu'Rabbi Zera a vécu très vieux. Lorsqu'on a demandé par quel mérite il avait eu ses jours prolongés, il a répondu qu'il n'a jamais été sévère avec les gens de sa maison. Il ne s'est jamais mis en colère. Il n'avait jamais crié. S'il n'avait eu aucune raison de s'énerver, cela n'aurait pas été une prouesse de la part de Rabbi Zera de ne pas s'énerver. Et s'il a dit « je n'ai jamais été sévère », il semblerait que comme dans chaque famille, il aurait eu plus d'une raison de se mettre en colère. Il a même eu des mises à l'épreuve difficiles, et malgré tout, il s'est contrôlé. Pour cela que ses jours ont été prolongés. L'épreuve la plus difficile dans la vie, c'est de vivre en paix et en sérénité avec son épouse ou son mari. Un homme qui a la capacité de ne jamais se mettre en colère avec toute sa famille, c'est cela, un homme parfait. Un homme qui agit sans cœur, c'est comme un acte commis par un singe, sans aucune valeur. Si un singe trouve un collier de perles et l'offre à une femme, est-ce qu'elle l'aimera pour autant le singe ? Évidemment non, car il donne son intention, son acte n'a aucun sens. Un mari qui n'aime pas sa femme ne lui achète des bijoux que le jour de son anniversaire. Lorsqu'elle a besoin d'une robe ou de chaussures, la réponse est toujours « attends le jour de ton anniversaire ». Un mari qui aime sa femme lui achète ce dont elle a besoin, il n'attend pas une raison. S'il attend une raison, c'est le signe qu'il ne l'aime pas. Il y a beaucoup de maris qui disent « le jour de notre anniversaire de mariage arrive bientôt, je lui offrirai alors telle chose ». Une telle femme pourrait regretter de s'être mariée avec ce mari, car il ne se souvient d'elle que le jour de leur anniversaire de mariage. La grandeur d'un homme ne se mesure pas en temps de paix et de sérénité, lorsque tout suit son cours comme un long fleuve tranquille, mais quand il y a des difficultés, quand il y a des ennuis. Supposons que le mari n'a pas payé la facture d'électricité et qu'on leur coupe le courant. C'est une situation pas très agréable, se retrouver dans le noir la nuit. Madame n'a pas pu préparer le repas et il n'y a pas de lumière. Elle allume une bougie. La bougie tombe par terre, et par la suite, elle aussi. Au même moment, son fils ouvre le lave-linge, une fuite d'eau, et la cuisine et le salon sont envahis. Le tapis persan est trempé, toute la maison est retournée. À ce moment précis, son mari rentre à la maison. Le Satan, le Yisserara, danse au temps de la détresse, et le mari a passé une journée exécrable. La TVA lui est tombée dessus. De gros ennuis sont arrivés au travail et à la fin de la journée, on lui annonçait qu'il était licencié. Il arrive à la maison, pensant trouver le paradis. En rentrant, il constate que la maison est dans le noir. « Que s'est-il passé ? » demande-t-il à sa femme. Elle lui répond en criant de la cuisine « Tu n'as pas payé la facture d'électricité !» Il rentre au salon, ses pieds sont mouillés à cause de la fuite d'eau. Il constate que le tapis persan est trempé. La maison est sans dessus-dessous. Les enfants ne sont pas couchés et lui se met à crier. Voilà le grand examen, chers amis. Une femme méchante lui aurait dit « À cause de toi, regarde ce qui t'est arrivé parce que tu n'as pas payé la note récitée. » Mais une femme gentille se soucie de calmer sur le champ son mari. Elle lui dit en souriant « Viens, assieds-toi. La lumière va bientôt revenir, ça va aller. C'est sûr, tu n'as pas eu le temps de payer la facture. Tu étais occupé, c'est pas grave. J'irai payer demain. » C'est ainsi qu'elle doit parler. Juge son mari du bon côté. C'est lors d'une telle bataille, dans un tel chaos, que se reconnaît la grandeur d'une échetraille, d'une femme vertueuse. Ô combien il est important d'être toujours ensemble. Lorsqu'on vit réellement unis, tout paraît différent. Si le mari travaille seul et que la femme travaille seule, aussi même si chacun gagne 2000 euros, il n'y a pas assez de revenus pour le foyer. Chacun t'a découvert la banque, car chacun vit seul. Par contre, si les deux vivaient ensemble et gagnaient 1000 euros, ils seraient créditeurs, auraient beaucoup d'argent et ne seraient pas comme est arrivé à un tel miracle. La force de deux personnes unies est inimaginable. Il est impossible de remorquer un grand bateau avec un fil fin. Par contre, si on tisse ce fil fin avec beaucoup, beaucoup d'autres fils fins, les fils deviendront une corde épaisse, avec laquelle on pourra même remorquer un très grand bateau. Lorsque un homme et une femme sont unis, qu'il n'y a pas deux sons de cloche à la maison, c'est une force sans égale. Ce sont des choses peut-être élémentaires, mais on passe à côté dans beaucoup de familles et on arrive à des situations catastrophiques. On rapporte dans la Gemara, dans Sanhedrin, que toute maison où il n'y a pas des paroles de Torah durant la nuit, un feu la dévore. Le problème n'est pas réellement le feu, car dans ce cas, on peut appeler les pompiers. Par contre, si le mari ne se rend pas à des cours de Torah, ne prévoit pas des moments fixes pour étudier la Torah. Cette maison ne pourra pas subsister. Il y aura des disputes dans le couple. Ce sera le début de la destruction du foyer. Et rapidement, les ennuis commencent à pleuvoir. Il n'y a plus de revenus. Il y a la maladie qui s'installe. Les enfants traînent dans la rue. Et tout cela a commencé parce qu'il ne s'est pas rendu à un cours de Torah. S'il allait à des cours de Torah, il n'aurait pas crié. Si elle se rendait à des cours de Torah, elle ne l'aurait pas répondu. La lumière de leur Torah aurait éclairé la maison. C'est ce que dit Rachamim dans le Midrash, que lorsque Hachem dit à l'homme, « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse Rava, alors cette femme s'est mise à se plaindre à Adam Arishol avec une voix sanglantante. » Alors, c'est ce que dit le texte. Et à l'homme, Dieu dit, « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse. » Il n'est pas écrit les paroles de ton épouse, mais la voix de ton épouse. Parfois, le mari sait que la femme n'a pas raison, mais il l'écoute. Pourquoi ? Il ne suit pas le bon sens, il ne vérifie pas si ses propos ont atteint sens, mais il écoute la voix de son épouse, il est influencé par ses pleurs et ses sanglots. Le résultat peut amener à la catastrophe, comme nous le voyons avec les conséquences de la faute d'Adam Arishon. Combien faut-il être vigilant de ne pas céder aux sentiments lorsqu'ils sont contre les règles de la Torah ? Un homme qui veut témoigner son amour à sa femme, il doit lui offrir des choses qui sont en dehors de ses obligations vis-à-vis d'elle. S'il doit lui acheter un appartement, même de 8 pièces, ce n'est pas du tout un témoignage d'amour. Un homme est obligé de fournir un toit à sa femme, même si c'est important pour elle que ce soit une grande maison et pas un petit appartement. Lorsqu'il lui achète un grand appartement, ce n'est pas encore une preuve d'amour. Par contre, lorsque le mari garde sa femme en lui offrant une boîte de chocolat, des fleurs ou autre chose, même un tout petit objet qui marque une touche particulière d'attention, en dehors de la frontière de ses obligations, c'est une preuve et une raison pour la femme de croire que son mari l'aime réellement. Et Chachamim dit dans la Gemara dans Sota qu'un homme et une femme qui ont eu du mérite, Akadosh Baruch Hu réside parmi eux. S'ils n'ont pas de mérite, un feu les dévore. Que veut dire Hachem réside parmi eux ? Comment faire pour qu'Hachem réside dans le couple ? Si un homme et une femme ont eu le mérite, chacun pensant à l'autre et se souciant de son bien-être, alors le mari dit, la pauvre, ma femme, le bébé ne l'a pas laissé dormir toute la nuit. Je vais lui préparer un café. Et elle, au contraire, non, tu as travaillé toute la journée, ne te dérange pas. Et ainsi, elle doit se soucier de lui tout le temps et vice-versa. Et Hachem, dans la maison d'un couple comme celui-là, il dit, c'est ma volonté d'y résider. Mais si chacun a des requêtes et des demandes vis-à-vis de l'autre, lui disant, pourquoi le dîner n'est pas prêt ? Qu'est-ce que tu as ? Et elle lui dit, tu devrais peut-être me le préparer. Dans un tel foyer, Hachem dit, j'ai pas ma place. Et Hachem, c'est le feu qui domine. Très souvent, une femme à la maison se laisse complètement aller. Une vieille blouse, pantoufle, moitié à elle, moitié à son mari, un foulard des temps anciens. Son mari, rien qu'en la regardant, n'a qu'une envie. C'est de se sauver le plus loin possible de la maison. Elle ne comprend pas sa réaction, ce qui ne va pas à la maison. Par contre, lorsqu'elle sort de la maison, une demi-heure avant, elle se tient devant le miroir et se fait belle, se maquillant avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour qui ? La Torah nous enseigne le contraire. Lorsqu'une femme sort en dehors, il préférera qu'elle chausse une pantoufle à elle et la seconde à son mari, une vieille blouse et un vieux foulard. Cependant, à la maison, elle doit avoir l'air d'une reine en l'honneur de son mari. Et il y a des femmes qui disent à leur mari, tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien. Il se peut qu'il soit le grand de la génération, mais le traite comme un moins que rien. Elle doit savoir, si tu penses que ton mari ne vaut rien, même si ton mari a des capacités d'être au niveau du prophète Eliaou, il restera insignifiant. Par contre, si elle pense que son mari est le prophète Eliaou, même s'il ne vaut rien, il arrivera à la fin au niveau du prophète Eliaou. Et son niveau spirituel dépend du niveau de confiance de son épouse en lui. Donc, en vérité, c'est pas à se jeter la pierre, mais tout dépend de la femme. Car, et ce sera ma phrase de conclusion, après que le peuple d'Israël ait campé face au mont Sinaï, Hachem a d'abord envoyé Moshe auprès des femmes, et seulement ensuite chez les hommes, dire « adresse cette parole à la maison de Yaakov ». Et Rashi explique que les femmes, et seulement après cette déclaration d'envoi Israël, les hommes. Pourquoi ? Pour quelle raison Hachem a-t-il fait précéder particulièrement pour ce décret qui est avant le don de la Torah les femmes et après les hommes ? Alors qu'on sait très bien que l'obligation d'étudier la Torah incombe aux hommes. Car sans l'aide des femmes, les hommes n'auraient pas le mérite de porter la couronne de la Torah. Si une femme ne désire pas une vie de Torah, même si son mari dit « tout ce qu'a dit à Dieu, nous ferons », il n'y aura ni exécution, ni docilité. Car Shlomo HaMeler, l'homme le plus sage, a dit « la sagesse des femmes, elle édifie la maison. Leur folie la renverse de ses propres mains. Une femme a la capacité de construire son foyer autant qu'elle peut le détruire, tout dépend d'elle, que ce soit en bien ou en mal. » C'est pour ça que le Talmud rapporte qu'une femme dure est comparée à l'enfer, comme dit Shlomo HaMeler dans Kohelet, l'Ecclésiaste. Ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme. Alors qu'une femme vertueuse est comparée à une couronne posée sur la tête de son mari, car Dieu a donné à la femme la force du feu, et tout dépend d'elle. Et là, Matsa Isha Masato, celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Voilà mes chers amis, comment notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez eu ce bonheur comme moi d'être avec nous comme chaque semaine pendant cette heure. Je vous souhaite une très bonne semaine. Shavua Tov. Et nous vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem. À la semaine prochaine. Kol Tov.